Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tire le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 6 août 2021, ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec, de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Allons-y directement. Trois médailles de suite pratiquement qui viennent d'être remportées par le Canada. Donc médaille d'or au soccer pour l'équipe féminine. Médaille de bronze pour le relais 4 fois 100 mètres avec André Degrasse qui a littéralement récupéré la situation. Et la médaille d'argent aussi en athlétisme pour le 5000 mètres. Je cherche l'information. Voilà, le 5000 mètres. Mohamed Ahmed qui a remporté du côté des hommes. Donc, une médaille de chaque couleur rajoutée, ce qui porte le total des médailles du Canada à 22. Ce qui nous place au 11e rang. Donc, on vient de gagner quelques places parce qu'on était... on était au 16e rang hier soir avant les compétitions, justement, sauf erreur. Donc, on remonte tranquillement pas vite. Et sinon, ben, au total de médailles d'or pour le véritable classement, on retrouve les Chinois en première position avec 36. Les Américains avec 31 médailles. Et non loin derrière, le Japon à 24. La Grande-Bretagne à 18. Ex aequo en 5e pour les représentants olympiques russes. Et les Australiens avec 17 médailles d'or. Mais au total, les États-Unis sont à 98 quand même, faut le souligner. Mais techniquement, le vrai classement, c'est les médailles d'or. Donc, les Chinois avec 5 de plus que les Américains. Comme je le disais, ça a été une bonne semaine. Il y a eu quand même beaucoup de médailles remportées tout au long de la semaine. Comme je le disais, en athlétisme, relais 4 fois 100 mètres... 5000 mètres hommes, mais aussi cette semaine, André Degrasse a marqué l'histoire, remporté la médaille d'or aux 200 mètres pour les hommes, au décathlon, record olympique, record canadien, et c'était la première fois peut-être que c'était arrivé, le décathlon homme, Damien Warner, qui a remporté la médaille d'or. Décathlon, qui sont les 10 disciplines en athlétisme qui doivent réaliser un certain pointage. Donc, évidemment, meilleur le score et meilleur le pointage sera. Et même si le saut à la perche n'avait pas été très bon pour Damien Warner, il s'est rattrapé sur plusieurs autres disciplines, notamment la course, qui a donné également une super photo où à la fin du marathon, de la course ou du marathon, je ne suis pas trop certain de la discipline, je pense que c'était 1000 mètres. Tout le monde est couché à terre sur la piste, sauf Damien Warner qui remporte la médaille d'or. Sinon, Evan Dunphy qui a remporté la toute dernière médaille de bronze aux 50 km marche rapide, puisque semble-t-il que la discipline ne sera pas de retour à Paris en 2024, oui. Donc, Evan Dunphy qui s'était dit avant la compétition qu'il allait repartir avec la médaille d'or. Bon, il y a eu quelques petites complications tout au long du parcours, mais il est quand même reparti avec la médaille de bronze. Il était extrêmement heureux. Il a dépassé les deux. Il était en cinquième position sur le dernier kilomètre, deux kilomètres de course. Et il a eu un petit regain d'énergie pour réussir à se faufiler et à s'en aller sur la troisième marche du podium. Sinon, en natation, on se souviendra la semaine dernière, Maggie McNeil qui avait remporté au 100 mètres papillon la médaille d'or et elle-même était surprise d'avoir remporté la médaille. C'est Kylie Mass plutôt qui avait été complètement... Là, j'ai vraiment un petit doute qui est qui. C'est vraiment Maggie McNeil qui a remporté la médaille d'or qui a été surprise de sa victoire. Kylie Mass qui a également performé avec trois médailles d'argent puisqu'elle a remporté individuellement le 100 mètres et le 200 mètres d'eau, puis au relais 4x100 mètres libre féminin, la médaille d'argent. Pénélope Xiak, qui était dans cette équipe-là, a remporté également l'argent pour cette discipline-là, individuellement au 200 mètres libre féminin, et sinon au relais 4x100 mètres, 4 nages, donc qui mêlait dos, papillon, brasse et crawl. J'imagine que c'est le libre, le normal, entre guillemets. Donc, elles ont remporté la médaille de bronze. C'est elle qui est allée chercher la médaille de bronze puisque c'est elle qui complétait le 4x relais. Le 8 de pointe féminin, surprise pour l'aviron qui a été remporté également. Et sinon, en bronze, aviron 2 de pointe, Caitlin Filmer et Hillary Jensens pour la médaille de bronze. Au judo, on l'a vu dans les premières semaines, Catherine Beauchemin-Pinard, Jessica Kilmatt pour respectivement le 63 kg et le 57 kg féminin. Maud Charron qui a causé la surprise, médaille d'or en haltérophilie. Le soccer, comme je le disais, qui vient tout juste d'être remporté contre les Suédoises qui sont anéanties. Ça s'est réglé au tir de barrage. C'était 1-1. Ça s'est terminé finalement au... le sixième tir de barrage. Les Suédoises l'avaient raté. Le Canada a complété avec... Elles avaient l'avantage avec le but juste avant. Elles ont remporté finalement la médaille d'or. Les Suédoises, quand même, qui repartent avec la médaille d'argent, c'est quand même pas rien. Mais c'est sûr que dans une compétition qui se déroule en tournoi, la médaille d'argent fait un petit peu plus mal. Et finalement, les Américaines qui complètent le podium avec la médaille de bronze. Voilà, je cherchais Laurence Vincent Lapointe, canoë-kayak, médaille d'argent au sprint de 200 mètres qu'elle a remporté, c'est aujourd'hui ou hier, ou en tout cas ça dépend des fuseaux horaires évidemment. Jennifer Abel et Mélissa Cintrini-Beaulieu qui ont remporté le 3 mètres synchro féminin et ce sont les seules médailles en plongeon qui ont été remportées jusqu'à maintenant. Il nous reste un Canadien qui est terminé cinquième hier au classement du 10 mètres, du saut de la plateforme de 10 mètres. Les autres Olympiennes, malheureusement, se sont effondrées avec un saut qui a été catastrophique ou ça a été la pression qui a peut-être été un petit peu trop forte. Megan Pinfito, entre autres. Jennifer Abel, les deux qui ont frôlé le podium, mais qui a été vraiment un seul saut qui a été un petit peu plus problématique, ce qui a fait en sorte que le pointage a été décontenancé complètement, où elles étaient complètement ailleurs. Megan Benfitto elle-même qui disait qu'elle était complètement ailleurs à la fin. Et Jennifer Abel, qui, bon, a, oui, la médaille d'argent, n'a pas remporté de médaille individuelle comme elle le souhaitait, mais elle s'est quand même fiancée, son conjoint qui l'a demandé en mariage juste avant de repartir pour le Canada. Sinon, ben, une autre qu'on avait mentionnée la semaine dernière, le baseball, softball, le Canada qui a remporté la médaille de bronze pour l'équipe féminine. Et finalement, au cyclisme sur piste, Lauriane Genet qui a remporté la médaille de bronze pour la discipline féminine. Donc voilà, compte total, 6 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 10 de bronze, total 22. Il reste encore samedi et dimanche en début de journée avant la cérémonie de fermeture, cérémonie de clôture qui sera à 7h, heure du Québec. Donc si vous êtes des lèvres tôt, vous pourrez attraper en direct la présentation des Jeux de la fermeture des Jeux olympiques. Sinon, ce sera en rediffusion, bien sûr, le dimanche soir. Et ce sera le retour à la normale pour la programmation télé. Parce que s'il y a au moins une chose qui était un peu tannante pendant la présentation de ces Jeux olympiques-là, ne serait-ce qu'une même compétition pouvait être présentée entre 3 et 4 fois dans la même journée, mais ça, c'est pour ceux qui sont vraiment branchés 24/7 sur les Jeux olympiques, donc ceux qui avaient des petites redites. Mais c'est qu'il y avait beaucoup de publicité. Et ça, ça a été énormément questionné, le fait que pendant les compétitions, pendant qu'on fait une transition, par exemple, entre au plongeon, on a les 12 plongeuses qui ont terminé, mais on met une transition avant que les plongeuses y aillent pour un prochain saut, ben on sacrait une publicité en plein milieu. T'sais, on mettait l'image en mortaise et sur le côté droit, on faisait apparaître une annonce de char ou une annonce d'épicerie. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de publicité et évidemment, ben ça fait aussi un petit peu graisser des dents les retours de pause. Ne manquez pas telle série à Radio-Canada qui sera présentée cet automne. Oui, mais c'est dans 2 mois et demi, 3 mois pour la plupart de ces séries-là, justement, qui sont présentées seulement fin septembre. Fait que, tu sais, je comprends l'autopromo, je comprends que on a une année complète à rattraper puisque ça, les Jeux olympiques étaient censés être programmés l'année passée, mais j'ai l'impression qu'on a manqué de publicité aussi parce que on a fait le tour des petites blagues de Corias et Ginette Renault qui sont à se commander de la bouffe sur une application. On a, surtout qu'il y en a 3. Fait que, on fait rapidement le tour. Le pire, c'est IGA. Il n'y en a qu'une seule qui roule en boucle et en boucle et en boucle. Fait que, dans la catégorie épicerie. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, il y en a quelques autres publicités qui commencent à apparaître, mais le plus gros des annonces ont été sur le mode repeat. Et sinon, un constat également qui a peut-être été fait, comme je le disais, il y avait des compétitions qui étaient présentées 3, puis 4, puis 5 fois, parce qu'on présentait la version intégrale, la version résumée, la version raccourcie, la version express, pour regarder une victoire, par exemple, d'un athlète canadien. C'est que je pense que normalement, il y aurait dû avoir des gens sur place pour faire des reportages, pour faire découvrir l'endroit, ne serait-ce que Jean-René Dufort qui faisait ses reportages en direct, qui faisait l'autre penchant des Jeux olympiques pendant les Jeux, donc des petits reportages à chaque jour. Il y en a eu beaucoup moins cette année, j'ai l'impression. Ironiquement, Guy Daou avait été tourné des reportages l'hiver dernier, ou en tout cas en 2019 même. Je pense que c'était même à l'automne 2019. Donc, ses capsules à lui étaient déjà toutes prêtes. Donc, on les a diffusées, évidemment, comme si de rien n'était, entre guillemets, bien qu'il y avait quand même un petit bandeau. Ceci a été enregistré avant la pandémie. Parce qu'il est notamment commentateur des sauts au plongeon. Des sauts au plongeon, c'est pas mal l'idée du plongeon. Bref, il est commentateur, donc il n'avait probablement pas le temps de les faire en direct. Je vais faire 10 heures de plongeon, puis oh, on va aller tourner dans un restaurant. T'sais, fait que c'était déjà fait. Mais par exemple, des reportages que Jean-René Dufort aurait fait auraient été en direct des Jeux. Laurent Duvernay, tardif, qui avait fait des capsules, c'était aux Jeux d'hiver où il allait rencontrer les athlètes pour leur préparation et les après et tout ça. Bon, ben tout ce flafla-là, entre guillemets, toutes ces capsules-là qui auraient dû voir le jour, malheureusement, n'ont pas lieu. Et il y a un petit peu de remplissage à faire, t'sais, ne serait-ce que présenter les compétitions qui se déroulent à RDS et RDS Info, les ramener à Radio-Canada pour au moins varier un petit peu, même pas. T'sais, le golf a été exclusivement à RDS. Il n'a pas été présenté sur les ondes d'ici à Radio-Canada. Fait qu'il y aurait peut-être un ajustement à faire pour justement peut-être essayer d'éviter qu'il y ait ces mille et une reprises. C'est la médaille de bronze d'André Degrasse a été extrêmement bien détaillée la journée qu'il l'a remporté, t'sais. Le direct, l'analyse, le résumé avec le présentateur en ligne, avec Bruni, avec, tu sais, il y avait beaucoup trop de steps pour que normalement ça aurait pu être présenté trois fois et that's it, t'sais. Fait que, essentiellement, c'est sûr, la couverture, on peut pas, il y a deux postes qui s'en occupent. C'est RDI, CBC, et RDS, qu'est-ce que j'ai dit? Radio-Canada et CBC et RDS. De l'autre côté, RDS occupe des autres compétitions les plus longues. Les matchs de tennis ont été présentés à RDS, bien qu'on les amenait quand même à ici RDI, à ici Radio-Canada, en temps régulier aussi, quand c'était les grandes finales. Mais les matchs où il n'y avait pas nécessairement de Canadiens ou de joueurs vedettes, ben, étaient à RDS de ce côté-là. Donc, voilà pour ça. Parenthèse Tokyo. On conclut évidemment la semaine prochaine avec les dernières médailles qui pourraient être remportées par le Canada, notamment à surveiller en plongeon masculin la tour de 10 mètres. Un des deux Canadiens a réussi à se qualifier, un qui est terminé en 5e, l'autre qui est terminé en 19e position. Il était vraiment sur la limite puisqu'on ne conservait que les 18 premiers pour les 10, je pense que c'était les 18 premiers pour les quarts de finale. Donc malheureusement, il rate de peu la prochaine qualification et ensuite on retranche à 12 pour la grande finale pour la tour de 10 mètres au plongeon. J'ai trouvé la bonne expression. On s'en va en musique. Thierry Larose avec De la perspective d'un vieil homme. Vous écoutez le deuxième service. Ce qui débute, ben, qui est débuté sur les ondes de Chiz et de CFAQ à Sherbrooke.
Que je fais, mais bon sang qui jamais sent vieux. Je me dis que plus rien n'est vrai. Je me dis que rien ne vaut mieux. De la perspective d'un vieil homme, c'est le titre du roman que j'écris là avant de mourir, que j'écrirai jusqu'à mon dernier souffle. Empreintes du soleil du temps doivent absolument me survivre. celui du jeune homme au regard glacé.
Retour au deuxième service. Mine de rien, et c'est quand même important à souligner, puisque aujourd'hui même, le 6 août, il y a 76 ans, avait lieu la tragédie d'Hiroshima. Donc, on aura commémoré le 76e anniversaire du bombardement d'Hiroshima ce matin, 8h... Je ne vais pas dire n'importe quoi, 8h15, heure précise à laquelle la bombe atomique américaine avait été larguée plus tôt, 76 ans. Je comprends que 2020 aurait été encore plus significatif avec les Jeux s'ils étaient tenus à la bonne année pour le 75e, mais bon, 76e quand même. Quoique le comité olympique aurait, semble-t-il, refusé qu'il y ait une minute de silence pour souligner le bombardement. C'est quand même assez particulier. Enfin, drôle de décision. Quelques dignitaires ont été sur place en raison de la pandémie. Le grand public a été également exclu, mais la cérémonie pouvait être suivie sur Internet. Les participants masqués et souvent vêtus de noir ont observé cette minute de silence à 8h15 précise. Tragédie qui a appris à l'humanité que menacer les autres pour se défendre ne profite à personne, a déclaré le maire de Hiroshima, Kazumi Matsui. Des rescapés et la municipalité avaient récemment proposé au CIO d'inviter les sportifs des Jeux olympiques à se joindre à cette minute de silence depuis Tokyo, mais le président du CIO, Thomas Bach, n'a pas donné suite à cette proposition, répondant à la place dans une lettre que la cérémonie de clôture de dimanche offrirait l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes des événements tragiques dans l'histoire mondiale. Bon, je comprends qu'un tableau soulignant Hiroshima va être mise en place, mais ça aurait été quoi de faire une minute de silence à 8h15? Tu sais, non, t'aurais peut-être pas interrompu le 50 km de marche rapide, mais tu sais, il y avait d'autres choses. Enfin, bref. C'est décevant, même si nous apprécions le fait que le président Bach ait visité Hiroshima avant les Jeux, a déclaré un responsable de la ville, Tomohiro Igaki, à l'agence France Presse. Thomas Bach s'était rendu le 16 juillet à Hiroshima pour marquer le début de la traditionnelle trêve olympique. Il avait alors déclaré que les JO de Tokyo seraient une lueur d'espoir pour un avenir meilleur et plus pacifique. Yoko Sado, une habitante de Hiroshima de 43 ans, qui se promenait vendredi dans le parc du Mémorial de la Paix, a déploré que la crise sanitaire ait privé sa ville d'une chance de diffuser plus largement un message de paix. S'il n'y avait pas eu la pandémie, beaucoup de gens qui auraient assisté aux Jeux olympiques de Tokyo auraient pu visiter ce parc et voir les expositions qu'a regretté cette mère de famille. Donc, effectivement, avoir eu un certain public, il aurait pu avoir des commémorations un petit peu plus intéressante, j'allais dire, mais ça reste quand même important à souligner. La bombe atomique à Hiroshima a fait 140 000 morts entre août et fin 1945, et celle larguée à Nagasaki le 9 août 1945 a fait 74 000 morts sur la même période. Le Japon a capitulé le 15 août 1945, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie de cette année à Hiroshima est la première depuis l'entrée en vigueur en janvier dernier du traité international interdisant les armes nucléaires. Ce traité n'a cependant pas été signé par les 9 pays détenteurs de l'arme atomique, ce qui fait aucun sens. Ceux qui ont fait un traité, mais personne ne l'a signé, soit les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Corée du Nord risque d'être probablement le dernier, sinon jamais. Le TIAN, donc le traité interdisant l'arme nucléaire, n'a pas été signé non plus par Tokyo. Eh bien, allié indéfectible de Washington et dépend étroitement de la puissance militaire américaine pour assurer sa défense régionale. Pour le Japon, il est approprié de poursuivre une voie réaliste vers le désarmement nucléaire tout en répondant de manière réaliste aux menaces pour sa sécurité et en maintenant et renforçant la discussion, a déclaré vendredi à la presse le premier ministre japonais Yoshihide Suga. Donc, voilà pour ça. Du côté japonais, sinon ça fait un peu fait divers, mais ça s'est quand même produit. Un homme armé d'un couteau aurait blessé au moins 10 personnes à bord d'un train de banlieue vendredi à Tokyo avant de prendre la fuite et d'être arrêté par la police, selon ce qu'ont rapporté les médias et les dirigeants du pays. Le diffuseur public NHK précise que 2 passagers ont été blessés grièvement. Le suspect aurait laissé son arme sur place avant de s'enfuir et il aurait été arrêté à Tokyo un peu plus tard. Les secouristes ont indiqué que 9 des 10 passagers ont été conduits vers les hôpitaux de proximité, tandis que la 10e personne a pu, elle, rentrer chez elle. Des images diffusées par NHK montrent des voitures de police et des agents en uniforme dans la rue où l'individu aurait été arrêté. L'attaque s'est produite près de la station de Seijo Gakuen, selon le transporteur Odaku Electric Railway. Cette ligne se trouve principalement à l'extérieur, mais elle prolonge sous terre à l'endroit de l'incident. La police a refusé de commenter et ne dispose pas plus de détails pour le moment. Donc, voilà pour ça. Voilà pour les nouvelles internationales, très locales, puisqu'on reste du côté de Tokyo, mais quand même. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de l'actualité de la semaine, on revient en territoire beaucoup plus local parce que il y a une campagne électorale qui s'en vient, veux pas. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une campagne électorale qui s'en vient. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Gabé avec Plus simple qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz et de CFAC. Il en reste un petit peu. C'est des choses qui arrivent. Comme je le disais, il y a des élections dans l'air, veut pas. La prochaine élection, tout le monde est prêt, même si personne veut le dire. Il y a des annonces qui se font tranquillement, pas vite. Et semble-t-il qu'au Québec, les conservateurs cibleraient surtout des sièges bloquistes. Pourquoi? Lors de la prochaine élection, le parti d'Erin O'Toole espère faire des gains, entre autres, à Saguenay et dans la région de Québec, où le chef entame une tournée de 3 jours dès aujourd'hui. Donc, en ce moment, Erin O'Toole serait là. Donc, bonjour Erin O'Toole. Au bout du fil, le candidat conservateur Alupa Clark n'y va pas par 4 chemins. S'il a perdu avec une faible marge son comté de Beauport-Limoilou en 2019, c'est à cause de la vague du Bloc, qui a pris un peu tout le monde par surprise, mais aussi en raison de la sous-performance des conservateurs au Québec. Les troupes, et surtout le chef de l'époque, Andrew Scheer, ont eu de la difficulté avec certains enjeux comme l'avortement, précise-t-il. 2 ans plus tard, Alupa Clark, qui a aussi été conseiller d'Erin O'Toole dans la dernière année, croit que la page est tournée. Là, on a un chef dont les positions par rapport aux enjeux sociaux sont très claires. Il a toujours été pour le mariage gay et il a toujours été clair sur le droit des femmes à l'avortement. La circonscription où il se représente, Beauport-Limoilou, dans la région de Québec, est l'une des plus grands espoirs du Parti conservateur dans la belle province. Si les électeurs sont bel et bien appelés aux urnes dans les prochaines semaines, M. Clark s'attend encore une fois à une course à 3 entre conservateurs, libéraux et Bloc. La circonscription est d'ailleurs également dans la mire de Justin Trudeau. Donc, peut-être y aura-t-il visite régulière de Justin, d'Erin et de Yves-François Blanchet dans la circonscription de Beauport-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans ou Beauport-Limoilou. Beauport, Côte-de-Beaupré, d'Orléans, Charlevoix, mes excuses, sur celui de Trois-Rivières, où l'ancien maire Yves Lévesque sera de nouveau candidat, et à Jonquière, où il mise sur la nomination d'une femme d'affaires de la région. Toutes les circonscriptions sont actuellement détenues par le Bloc. Donc, on essaie de récupérer, finalement, les sièges qui étaient précédemment conservateurs, mais qui sont passés aux mains du Bloc depuis. La tâche ne sera pas facile pour les conservateurs au Québec, prévient Yvan Plante, ancien stratège de Stephen Harper. Déjà, de conserver les sièges qu'ils ont serait un franc succès. En ce moment, la tendance n'est pas à la hausse pour eux, mais plutôt à la baisse. Yvan Plante n'est même pas convaincu que les 10 députés de la province seraient réélus s'il y avait un vote demain matin. Et ça vient, je le rappelle, de l'ancien stratège conservateur de Stephen Harper. Le lieutenant-chef et l'ancien entraîneur de hockey Richard Martel risque de devoir travailler beaucoup plus fort pour conserver son siège dans Chicoutimi alors qu'il ne l'avait remporté que de justesse contre la bloquiste Valérie Tremblay en 2019. N'importe où, entre 5 et 12 sièges au Québec, je pense que c'est réaliste. Mais il descend quand même à 5, fait que c'est pas de bon augure, disons ça comme ça. On va aller voir pour le fun les intentions de vote en même temps. Les anciens stratèges notent bien sûr les efforts d'Erin O'Toole pour recentrer le parti depuis qu'il est devenu chef, mais le problème selon lui, c'est que la base ne suit pas tout le temps. Si pendant que tu dis que t'es pro-choix, tu as quand même presque 70% des députés qui votent en faveur d'un projet de loi pour limiter le droit à l'avortement, ton bruit de fond ne suit pas tes paroles. On se souviendra effectivement de certains votes que les conservateurs plus radicaux ont voté en complète opposé avec le chef et avec les conservateurs de l'Est du pays. Ne serait-ce que d'interdire fermement et clairement les thérapies de conversion qui se déroulent dans l'Ouest, sans surprise, contre les homosexuels pour qu'ils redeviennent hétérosexuels. Mais plutôt que l'Assemblée nationale s'oppose fermement et clairement contre ça, il y a quand même une cinquantaine de députés conservateurs qui ont voté contre cette motion et de laisser les camps de conversion ouverts. Donc de ne pas rendre illégal les camps de... je veux pas... C'est pas un camp de concentration, mais camp de conversion. Le vrai terme, c'est conversion. Donc, plutôt que de dire unanimement non, ça a été à majorité du Parlement. Fait que le message est pas particulièrement intéressant. Donc, en date de la semaine dernière, les libéraux auraient remporté avec 35% des votes, suivis par les conservateurs à 29%, le NPD à 20% et le Bloc à 7%. Mais ça, c'est évidemment à l'échelle... à l'échelle du pays. Si on se concentre sur le Québec, pour les 78 comtés, de sûr, il y en a 25 pour les libéraux, 11 pour le Bloc, 5 pour les conservateurs, qui sont enclins. 5 pour les libéraux, 2 pour le Bloc, 2 pour les conservateurs, qui devance par une petite majorité. Les libéraux sont à 6, le Bloc à 6, les conservateurs à 1, le NPD à 1, et que c'est encore très serré, 5 pour les libéraux, 3 pour le Bloc, 2 pour les conservateurs, ce qui nous amènerait à un total de 41 pour les libéraux, 26 pour le Bloc, 10 pour les conservateurs, et de peu, Alexandre Boulris remporterait son siège à Montréal pour le NPD, ce qui fait en sorte qu'on a à peu près la même carte que les dernières élections. Non, c'est pas vrai. Thérèse de Blainville, on pourrait avoir une surprise qui pourrait passer aux mains des libéraux. Sinon, c'est pas mal copie conforme. Fait que c'est pour ça que c'est pas particulièrement intéressant. La Prairie, ça pourrait être serré avec libéral, toujours à Montréal. La Beauce, avec une grande surprise, Maxime reviendrait, mais c'est pas encore fait. Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, c'est avantage conservateur. C'est peut-être déjà ça. Ça va être serré avec le Bloc, probablement. Rivière-des-Mille-Îles, c'est serré, libéral, Bloc. Et c'est pas mal tout. Trois-Rivières, libéral, Bloc. Ah, libéral, Bloc. Et les conservateurs qui ont un œil, je le rappelle, sur Trois-Rivières. Mais c'est 28 à 28 à 24 pour les pourcentages. Fait qu'effectivement, c'est très serré. Donc, sait-on jamais? Peut-être que... Ben, en fait, l'idéal pour Erin O'Toole, ce serait de conserver les 10 sièges conservateurs. Dans le meilleur des mondes, ils en veulent un petit peu plus, mais ce n'est pas chose faite encore. Et sinon, s'ils veulent gagner des points, c'est d'appuyer le troisième lien, bien évidemment. Mais comme Laurentia ne s'offre pas, comme GNL Québec ne s'offre pas, jamais 203, le troisième lien ne se fera pas. Malgré le petit espoir que Gilles Lehouillier, maire de Lévis, s'est commandé cette semaine, il a demandé à l'entreprise Léger Marketing de faire un sondage dans la région de Québec uniquement, de demander si les gens directement concernés par le troisième lien étaient d'accord. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'on demande uniquement aux gens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches de se prononcer là-dessus, c'est que c'est sûr que les appuis sont où le projet va être. Mais automatiquement, tu fais le même sondage à l'échelle provinciale et de demander aux 16 autres régions administratives, acceptez-vous de donner 10 milliards de dollars à Capitale Nationale et à Chaudière-Appalaches? Ça serait peut-être pas aussi un bon appui que ça en ce moment. En accord avec l'appui global du réseau express de la capitale, la Ville de Québec, c'est 66 %, Lévis, 78, Bellechasse, 80, Côte-de-Beaupré, 75, moyenne à 70. Pour l'appui global au réseau express de la capitale. Évidemment, l'appui au tramway, la Ville de Québec est d'accord, 52 %. Mais tu demandes à Lévis, à Bellechasse et à Côte-de-Beaupré, parce qu'ils ne se serviront pas du tramway, ils sont pas d'accord. 44, 41, 47. Moyenne à 50. Donc, je réitère, demander à l'entièreté de la province qui ne se serviront pas du troisième lien si eux sont d'accord de donner 10 milliards free à Capitale Nationale et à Chaudière-Appalaches, ça serait pas le même son de cloche. Donc, même si Gilles Lehouillier est beaucoup trop peureux avec ce sondage-là parce qu'il est biaisé fois 1 million, tu sais, c'est comme les gens qui font des sondages sur Twitter qui demandent à leur propre base, à leurs propres gens qui les suivent, donc qui forcément ont la même mentalité ou sont d'accord avec ce qu'ils disent. Êtes-vous d'accord avec François Legault dans le milieu complotiste? C'est sûr qu'ils vont avoir des sondages à 95 % « Non, je ne suis pas d'accord avec François Legault ». Est-ce que c'est représentatif? Ben non! Fait que je trouve drôle que Gilles Lehouillier fasse une déclaration en disant « Ben, c'est drôle, les échos j'en avais, c'est que les gens n'étaient pas contents, mais là, je regarde ce sondage-là, puis les gens sont d'accord! » Ben oui, les gens sont d'accord. T'as demandé à ceux à qui ça servirait, s'ils sont d'accord, que ça leur serve. C'est sûr qu'ils vont dire oui. C'est peut-être simpliste, mais c'est demander à un enfant, veux-tu un son? Probablement que 70 % de ces enfants-là vont dire, ben oui, je veux un son. C'est du sucre. J'aime ça. C'est un bonbon. C'est un anane. C'est justement, c'est un anane électoral. C'est sûr qu'ils vont le vouloir. Mais après ça, t'as la mère, le BAP, pour continuer dans mon parallèle, qui va dire, ouais, il est gros pas mal ton son. Les gros sons à 3 piastres de la grosseur de la face des enfants. 10 milliards de dollars. C'est un gros son pas mal. Bon, on va faire des études avant de donner ton son, voir si ça se peut. Et si à long terme, j'en donnais une grosse caisse de barbe à papa à un enfant, voir si à long terme, t'as gavé de 10 milliards et de barbe à papa, ça va faire en sorte que tu vas filer bien après ou si tu le bouffes directement au complet et que ça va mal filer après. Genre engorger le troisième lien de trafic tout en engorgeant le trafic également sur les autres ponts. Parce que, à la longue, rajouter des routes, ça va faire en sorte qu'elles vont boucher un moment donné. Parce que le transport en commun est pourri. Si les autobus étaient bonnes, s'il y avait un bon système régulier de transport en commun, s'il y avait vraiment des incitations pour que les gens de la Rive-Sud prennent l'autobus à autres heures que 7h40 et 8h20 le matin, tu sais, qu'il y avait des autobus régulières et qu'il y avait des tarifs avantageux, les gens prendraient le transport en commun. Ça sera pas juste le tramway qui va faire en sorte que ça va être miraculeux. Faut que l'entièreté de ce réseau structurant-là soit efficace, fasse du sens, puis que la journée que le BAP, comme Laurentia, dise que ça n'a pas de maudit sens, comme GNL, que ça n'a pas de maudit sens, le Bureau d'audience publique, il disait avoir reçu, je pense c'était pour GNL, avoir reçu un nombre record, un nombre jamais vu de plaidoyers citoyens, de mémoires déposées pour dire à quel point ça allait scraper l'environnement et que de toute façon, eux autres-mêmes n'ont jamais été convaincus comme du monde par les promoteurs que ça allait être un bien environnemental de faire ces projets-là. Qu'en ce moment, pour le troisième lien, ils risquent de recevoir le même nombre, si c'est pas plus, de mémoires de gens qui vont dire ça n'a pas de maudit sens. Et peut-être que heureusement, grâce au BAP en 23 ou 24, qui va dire là, le troisième lien, envisagez pas un tunnel souterrain. Là. Si vous voulez faire un troisième lien, regardez peut-être pour un pont. Et que le projet stagne encore pour 20-30 années encore, comme ça l'a déjà été dans les années 50. Tu sais que ça brette depuis ce temps-là, là. Que ça continue de bretter jusqu'au moment où on n'aura plus d'auto au gaz ou qu'il y aura un projet de loi qui va limiter le nombre d'autos par maison à une seule parce que la pollution va être devenue tellement dégueulasse qu'on va ou qu'on fasse comme en Asie, comme en Chine, que les chars pairs roulent une journée et que les impairs roulent l'autre journée. T'sais, peut-être que ça va être ça la solution un moment donné pour essayer de diminuer l'environnement, mais on n'est pas bien parti pour ça. Et justement, ce ne sont plus que des réchauffements climatiques, ce sont des changements climatiques. Il faut qu'on s'habitue à parler de changements. T'sais, en ce moment, au mois de juillet, qu'il fasse des 20 en après-midi, c'est pas normal. Puis que là, on retombe en canicule pour les prochaines semaines parce qu'un autre dôme de chaleur s'en vient en plein mois d'août. C'est pas normal, ça non plus. Fait que t'sais, je comprends pas qu'on s'entête à ce point-là pour le troisième lien. Ou en tout cas, on fonce dans le mur jusqu'à temps que le BAP mettre le mur pour finalement les arrêter, au point que ça a fait dire au gouvernement Legault qu'il veut 40% du fédéral de Justin Trudeau. François Legault ose demander 4 milliards de dollars à Justin Trudeau quand ils ont clairement déjà dit qu'ils pouvaient financer le rail d'autobus jusqu'à concurrence d'à peu près 200 000 piastres. Peut-être 2 millions, parce que 200 000, c'est pas beaucoup. Mais tu sais, le gouvernement, en ce moment, n'investit que dans des projets qui vont être bons pour l'environnement. Jamais que le gouvernement libéral va donner entre 2,4 et 4 milliards de dollars gratis au Québec pour faire un tunnel de 8 km pour sauver 10 minutes sur le pont. Aucune possibilité qu'il fasse ça. Ce serait un arrêt. Un arrêt de mort pour le Parti libéral s'il faisait ça. Et jamais que les conservateurs, qui justement sont proches de l'argent, que l'argent c'est important, jamais ne peuvent eux non plus dire consciemment « Ben oui, on va vous faire près de 4 milliards, aucun problème, quand ils ont déjà tellement de misère avec leur base en Alberta, puis en Saskatchewan, où ça chialerait, surtout l'Alberta, qui chialerait, puis qui chignerait si le Québec avait 4 milliards et que l'Alberta ne l'avait pas. » Déjà, Jason Kenney est en danger dans sa circonscription, ben dans, comme premier ministre. En ce moment, les intentions de vote disent que le NPD reviendrait et avec 5 à 6 points d'avance pour faire dégager Jason Kenney d'avoir mis autant d'argent dans le pipeline Keystone qui, de toute façon, a été cancellé aux États-Unis. En ce moment, en Alberta, ça grogne énormément. Fait qu'eux autres, stratégiquement, politiquement, donneraient de l'argent gratis au Québec? Impossible. C'est impossible. Qu'il y ait autant d'argent mis sur la table pour une seule province, ce serait les 9 autres qui seraient en maudit, en tête de ligne. L'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba. Surtout l'Alberta. Bref. Ça arrête quelques instants. Frank Custo en musique avec Mon Chalet pour conclure l'émission. Au retour, la conclusion, comme je le disais, de cette émission en ce 6 août 2021.
Je voudrais aimer mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue. Je voudrais aimer mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue. Plus besoin de fumer un bat pour faire du ménage. Plus besoin de fumer un bat parce que tout m'enrage. Parce que les bœufs sont lents pis que la terre s'impatiente. Le temps qui passe me fait peur pis le monde m'énerve. J'arrêterai de quitter mon prochain quand j'ai plus une scène pour me geler, même que je deviendrai citoyen. Je serai à l'aise en société. Je m'impliquerai pour défendre autre chose que sexe, drogue et pis rock'n'roll. Capable de choisir chaque bonne cause quand rempli d'amour je m'enrôle. Pour qu'enfin se passe quelque chose ici, à la hauteur de notre talent. Qu'on fasse exploser les limites, qu'on fabrique un monde moins gênant. J'essaierai de dire aux humains que le changement existe en eux. À la place, je consomme des joints. T'essaieras ça même, c'est fameux. Je voudrais aimer mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue. Je voudrais aimer mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue. Plus besoin de boire d'alcool pour me faire des amis. Jamais je me soucie. À qui je peux dire je t'aime sans être chaud comme un poêle. À qui je peux dire je t'aime et puis m'en souvenir. Je me lèverai toujours à même heure, plein d'énergie, de bonne humeur. Je ferai la cuisine tout content, j'irai digérer en courant. Je rencontrerai des gens en forme, ensemble on jaserait de nos vies. Je ferai pas semblant, je trouverais ça le fun. Ils trouveraient ça le fun aussi avec mes amis proactifs. On aurait toujours des projets. On serait sérieux et positif, ça nous amènerait le succès. On s'inviterait les fins de semaine, parce qu'on aurait tous des chalets. Le mien serait dans le bout des semaines. Entre Montréal et Bishop, c'est parfait. Je voudrais aimer mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue. Je voudrais aimer mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue. Quand que je vais être riche, je vais avoir plein d'affaires. Ouais. Quand que je vais être riche, je vais avoir une résidence secondaire. Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Me suis trouvé une petite place dans le bois où je peux faire tout ce que je veux. Ouais. me suis trouvé une place juste à moi où ce que je peux faire des feux. Tu viens-tu voir mon chalet? 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 Je me suis trouvé une petite place dans le bois où je peux faire tout ce que je veux.
De retour au deuxième service. Pour la conclusion cette semaine, rapidement, bon, ça a passé un petit peu dans la sphère complotiste. Il y a un festival contre les mesures sanitaires qui doit se tenir en Beauce de partir de cet après-midi. Les têtes d'affiche commencent à arriver sur le site. Un ordonné de cour les oblige à respecter les mesures sanitaires parce que, évidemment, on dit que c'est un festival, mais dans les festivals, il y a quand même des règles à suivre. Eux se vantaient sur les réseaux sociaux qu'ils allaient vivre la vie d'avant la pandémie. La propriétaire du terrain a dû se présenter en cour cette semaine pour négocier, entre guillemets, ou en tout cas se faire à croire qu'elle faisait une bonne chose. Caroline Lessard, pour ne pas la nommer, elle-même adepte d'Alexis Cossette, si ce n'est pas la fan numéro un d'Alexis Cossette Trudel, qu'on a perdu de vue, heureusement, mais dans le cas de qui elle continue de propager la bonne nouvelle. Donc, elle loue un terrain à un gars qui fait des vidéos de promotion un peu bizarres depuis le début de la semaine. L'événement contre l'urgence sanitaire, le passeport vaccinal, qui va être en vigueur d'ailleurs, doit débuter à 14h sur un terrain privé de Saint-Benoît-l'Arbre, non loin de Saint-Georges, selon l'organisateur. Plusieurs centaines de personnes seraient attendues. Des gens qui défient le couvre-feu. On est plus là, hein? Qui ont défié le couvre-feu par le passé, mais qui s'entêtent à vouloir rentrer dans des magasins sans masque, qui se filment en train de rentrer chez Canadian Tire, chez Maxi, chez Spacey, chez Canac, chez peu importe où. T'sais, ils s'entêtent à faire le contraire de ce qu'on leur dit de faire, comme des enfants pourris gâtés. Et dans son jugement exécutoire, elle accorde peu de crédibilité au témoignage des organisateurs qui dit que ça va bien se faire, que les règles vont être respectées et tout ça. Lors d'un contre-interrogatoire mené par l'avocat du CISS de Chaudière-Appalaches, l'une des organisatrices avait fini par déclarer que l'organisation respecterait les mesures encadrant les événements publics extérieurs, mais du bout des lèvres. Or, selon la juge, le peu de certitude et le peu de conviction dans sa volonté de suivre les directives de la santé publique font en sorte que le tribunal accorde peu de foi à son témoignage, ce qui fait en sorte que la police se représente, les constats d'infraction seront rédigés, et si jamais la distanciation, si les règles ne sont pas respectées sur le site, la police aura le droit de mettre fin à ce rassemblement. Et ce qui est un peu ironique, c'est qu'ils disent que c'est un rassemblement sur un terrain privé. C'est encore pire. Les rassemblements sur terrain privé ont des règles encore plus strictes que des festivals. Fait que même cet argument-là n'est pas bon. Fait que à suivre si réellement les 6, 7 et 8... Le festival du Québécois moyen sera tenu, ou si d'ici la fin de la journée, il y aura interdiction d'accès au site et que les gens auront perdu leurs 40 piastres non remboursables, comme ils le disent eux-mêmes sur leurs affiches. Et c'est là-dessus que ça termine.